Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le monde incrédule face à ces images venues des États-Unis.
Le cœur de la démocratie américaine, le Capitole à Washington, envahi par des militants trumpistes du jamais vu. Il y a même eu des morts, 4 victimes. Les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump ont été suspendus. Nous appellerons Léa Pizarre, l'ancienne conseillère de Bill Clinton. À suivre aussi dans ce journal, les nouvelles annonces de Jean Castex ce soir sur l'épidémie, alors que le conseil scientifique appelle à prendre des mesures plus dures.
RTL Matin.
Hey les gars, vous m'entendez? Hey, c'est la première fois en 200 ans que nous entrons dans ce putain de bâtiment gouvernemental. Trump dit qu'on a fait du bon boulot. Trump dit tout le monde sait que cette élection a été volée.
Les 4 ans de trumpisme s'achèvent donc avec ces images qui resteront dans l'histoire, des partisans du président sortant envahissant le temple de la première démocratie du monde. Le Capitole, siège du Congrès à Washington, face à des policiers munis de boucliers anti-émeutes. Le bilan, je le disais, est lourd. 4 morts. Avant cela, Donald Trump avait chauffé à blanc ses troupes réunies devant la Maison Blanche. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes sur place à Washington pour RTL. La question qu'on se pose évidemment ce matin, c'est comment ces gens ont-ils pu entrer dans une telle forteresse ?
Alors déjà, les services de renseignement ont sous-estimé sans doute la motivation des partisans de Donald Trump. Le FBI établit sur 10 000 manifestants, c'était une fourchette basse. Et les forces de l'ordre pensaient maîtriser la situation avec la police du Capitole, celle de la ville de Washington et le renfort de la garde nationale. Ça n'a pas suffi. Et puis, il s'était dit sur la foi de renseignement que les groupes d'extrême gauche ne viendraient pas en découdre et que du coup, il n'y aurait pas de casse. Il n'y a pas eu de casse de vitrine, mais le danger s'est porté ailleurs. Et ce qui a tout compliqué aussi, c'est que les forces de l'ordre devaient gérer des éléments et les partisans du camp du commandant en chef des États-Unis, c'est inédit et on peut imaginer que ça ait brouillé les chaînes de décision.
Merci beaucoup Lionel Gendron en direct de Washington.
Les réactions indignées sont nombreuses.
Ce qui est arrivé à Washington n'est pas américain, a affirmé Emmanuel Macron cette nuit dans une courte vidéo. Londres, pour sa part, dénonce des scènes honteuses. Nous appellerons dans un instant l'ancienne conseillère de Bill Clinton, Léa Pizarre, mais tout d'abord voyons avec vous, Sinamir, bonjour.
Bonjour.
Vous qui avez sillonné l'Amérique, puisque vous avez couvert la campagne présidentielle américaine, qui sont ces jusqu'aux boutistes qui refusent d'admettre la défaite de Donald Trump?
Eh bien, on a affaire là, dans les témoignages que vous entendez, au noyau dur de cette MAGA family, MAGA pour Make America Great Again, cette casquette rouge, le rouge de la colère que ces militants n'ont jamais quitté depuis 2016. En première ligne hier soir, des complotistes, des nationalistes qui viennent de loin, souvent du Midwest, du centre du pays. Par exemple, l'homme qui pose les pieds sur la table du bureau de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Cet homme est un militant de l'Arkansas qui défend le port d'armes et propage des idées complotistes sur Internet. Derrière ce discours un peu plus bas sur les marches du Capitole, vous trouvez des vétérans, beaucoup, des ouvriers ou anciens ouvriers, beaucoup, des retraités, des Américains qui se sentent trahis par les élites, ont l'impression que seul Trump et cette casquette rouge les rend visibles. Depuis des mois d'émeutes sur fond de Black Lives Matter aux États-Unis, ils participent au climat insurrectionnel, voient le monde en deux camps, les Antifa, les Black Blocs, les démocrates communistes, comme Trump les appelle, et de l'autre côté, les patriotes. Ils se revendiquent patriotes, se sont débranchés des médias grand public, se sont débranchés des partis politiques d'Hollywood, de la Silicon Valley, de beaucoup d'institutions américaines. Trump s'est construit sur cet isolement, sur cette colère, la plus grande, se faire voler l'élection. On voit très bien aussi parmi les premiers hommes souvent blancs qui sont entrés dans le Capitole hier soir, le t-shirt frappé du Q, le Q de QAnon, ce groupe complotiste persuadé que le Parti démocrate est à la tête d'un réseau pédophile sataniste, qui se rassemble autour d'un mot d'ordre qu'on voit aussi sur ce t-shirt: Trust the plan, suivez le plan était simple, renverser ce qu'il voit comme un complot des élites. Trump l'a encore dit hier, remember this day, rappelez-vous de ce jour, pour les plus radicaux, il restera celui où ils ont fait trembler les institutions. Pour l'énorme partie des Américains et même la base républicaine, absente du Capitole, celui où Donald Trump a mis le feu au Congrès.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Sinamir. Et bonjour Léa Pizarre.
Bonjour.
Ancienne conseillère de Bill Clinton, merci d'être avec nous ce matin sur RTL. D'abord, votre réaction à ce qui s'est passé il y a quelques heures à Washington, c'est quoi? C'est de la sidération?
C'est de la sidération, c'est une profonde tristesse. Parce que c'est vraiment, ça a été une journée très, très sombre dans l'histoire de ce pays et de cette démocratie qui représente quand même beaucoup pour le monde. Et ce qui s'est passé est, oui, vous avez raison, sidérant.
C'est sidérant, mais est-ce que c'est une surprise pour vous? Pour Barack Obama, ça n'en est pas une.
Ça n'est absolument pas une surprise pour moi. J'étais très, très inquiète. Depuis longtemps, avant l'élection, je m'attendais quasiment à pire. Je pensais que Trump ferait plus. Mais quand ça s'est produit, ça a quand même été un choc. Et de voir quasiment en direct le président des États-Unis d'Amérique inciter à la violence de manière aussi crue et aussi claire, c'est incompréhensible.
Pour oui, vous, c'est lui le responsable.
C'est tout à fait lui le responsable. Il les a incités à la violence, il refuse d'accepter les résultats de l'élection, il les a quasiment envoyés au Capitole hier matin.
Mais comment parler à ces Américains qui refusent la victoire de Joe Biden ?
Il faut essayer de leur parler, il faut espérer que la configuration changera. C'est-à-dire qu'on n'aura plus un président qui envoie à longueur de journée des tweets incendiaires. On aura un président qui a la carrure et l'approche d'un président et d'un homme d'État, tout comme la vice-présidente. Ça remettra quand même un petit peu les pendules à l'heure.
Sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent, Léa Pizarre, il reste 13 jours avant l'investiture de Joe Biden. Trump peut-il refuser de lâcher les rênes ? Il peut refuser de quitter la Maison-Blanche ? Et que prévoit la Constitution ?
Il ne peut pas refuser de quitter la Maison-Blanche, mais plus que ça, ce qui se passe en ce moment, c'est que de nombreuses personnes disent qu'il faudrait qu'il la quitte avant et qu'il soit carrément destitué. Alors, tout le monde est en train de rêver de mécanismes. Le 25e amendement de la Constitution, est-ce qu'il pourrait être invoqué ? Mais quoi qu'il en soit, il s'en ira d'une manière ou d'une autre le 20 janvier et à midi. Ce jour-là, Joe Biden sera intronisé.
Merci beaucoup Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage ce matin sur RTL. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
Et Donald Trump a ensuite posté une vidéo sur Twitter où il a appelé au calme tout en justifiant ces violences. Twitter qui, dans la foulée, a décidé, comme Facebook, de suspendre les comptes du président américain. C'est du jamais vu.
Analyse et prospective de cette situation critique aux États-Unis à 8h20 avec les deux spécialistes des États-Unis qui sont nos invités, Nicole Bacharan et Jean-Éric Brana. Dans un instant, le reste de l'actualité avec notamment ce léger assouplissement du télétravail. Les salariés concernés vont pouvoir désormais aller au bureau une fois par semaine, ce qui est visiblement un vrai soulagement.
La cantine me manque. C'est horrible, j'aurais jamais pensé dire ça.
Alors ça, vraiment, on ne l'avait jamais entendu. Et c'est dans un instant. Sur RTL, il est
8h07. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. La carte de France des couvre-feux à 18h sera-t-elle élargie ?
Réponse ce soir lors de la nouvelle conférence de presse de Jean Castex. Pour l'instant, 15 départements sont concernés, mais d'autres comme l'Allier, le Cher ou les Bouches-du-Rhône affichent des chiffres de contamination inquiétants. Faudra-t-il aller plus loin ? Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ne l'exclut pas. Il était hier soir sur France 2.
La France, c'est elle qui est bonne élève en ce moment, mais ça risque de ne pas durer. Le nombre de nouvelles hospitalisations, il stagne, mais il n'augmente pas vraiment, on est dans une situation un peu intermédiaire. Mais on arrive à des chiffres qui sont préoccupants. Au milieu de la semaine prochaine, ça sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes pour éviter une extension de l'épidémie.
Mais pour l'instant, l'heure est plutôt un assouplissement, en tout cas sur le front du télétravail, puisque les salariés qui le souhaitent et en accord avec leur employeur pourront se rendre au bureau une fois par semaine. Dès aujourd'hui, ils sont 6 sur 10 à vouloir le faire, 6 sur 10 à être lassés de leurs quatre murs, comme ce cadre qu'a rencontré Arnaud Touche.
Dans son appartement proche de Paris, David, 44 ans, a investi.
La première chose que j'ai acheté, c'est un écran.
Pour autant, ce cadre qui travaille dans le marketing n'a qu'une envie, retourner au bureau.
Je gère une équipe de 20 personnes, c'est un défi de tous les jours.
Mais il n'a jamais été contre le travail à domicile.
Moi, je suis un fervent défenseur du télétravail, mais du télétravail choisi. Moi, j'étais très heureux d'être ici, par exemple, un jour par semaine avant. Mais 5 jours par semaine, c'est ça qui me pèse vraiment. En fait, c'est tout bête, mais prendre le métro, prendre le bus le matin, ça me manque. Et ensuite, voir mes collègues, tout simplement.
Et même la pause déjeuner n'est plus la même.
La cantine me manque. C'est horrible, j'aurais jamais pensé dire ça.
Olivier, lui non plus, n'a pas souvent déjeuné au bureau ces dernières semaines. Cet employé de 25 ans n'en peut plus de passer ses journées chez lui.
Le lieu de vie devient un lieu de travail. La table sur laquelle je travaille devient à midi ma table de repas. C'est à 2 mètres du lit duquel je me lève. Les 4 murs, c'est les 4 murs que je vois toute la journée. Et avec le couvre-feu, j'en vois plus d'autres.
Et pour lui, retourner au bureau n'est pas synonyme de prise de risque.
Personnellement, mon entreprise, après le premier confinement, avait fait une organisation extrêmement solide. On respecte les règles, on fait pas de réunion dans des salle, on prend ses dispositions et après je pense que tout va bien.
Voilà en partie pourquoi le jeune homme vient de demander à son employeur de pouvoir revenir au moins 2 jours par semaine en présentiel.
Arnaud Touche, dans les Hauts-de-France, des grossistes en boissons qui réclament davantage d'aide pour, durant cette crise sanitaire, organisent en ce moment des opérations escargots. Il y a déjà des cortèges sur l'A25 à hauteur de Bailleul et sur l'A21, notamment près de Lens. Le périphérique lillois pourrait être aussi perturbé. Des camions doivent se rendre à 9h30 à la préfecture de Lille. C'est ce que nous signale sur place Franck Hanson. Après Auchan, Renault, Airbus, nouveau coup dur pour l'emploi avec les 2300 suppressions de postes annoncées chez Michelin, qui prévoit pourtant des résultats positifs pour pour 2020 malgré la crise. Ce sont 10% des effectifs qui vont disparaître. Pas de départ contraint ni de fermeture d'usine, promet la direction.
8h10, le football. Tous les clubs étaient de la partie hier soir pour la reprise du championnat.
Avec deux petits nouveaux. D'abord Raymond Domenech, nouvel entraîneur de Nantes, qui n'a pas pu empêcher le match nul contre Rennes. 0-0. L'ancien patron des Bleus passé par la case consultant, commentateur, désormais heureux de remettre les mains dans le cambouis.
C'est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais quand on y est soi-même et qu'il faut l'expliquer, le vivre et le faire passer aux joueurs... C'est ça qui me manquait, c'est d'être responsable de mes actes.
Raymond Domenech avec Philippe Audouin. Autre petit nouveau, Mauricio Pochettino à la tête du PSG, accroché par Saint-Etienne. Un partout, défaite de Lille contre Angers qui permet à Lyon de conforter sa place de leader. Lyon a battu Lens, victoire de Marseille contre Montpellier. Carton plein pour Strasbourg contre Nîmes, 5-0. Pour Monaco aussi contre Lorient, 5-2. Défaite de Nice à Brest, 0-0 entre Metz et Bordeaux, Reims et Dijon.
Voulez-vous procéder à l'histoire du jour, s'il vous plaît ?
En Australie, un fugitif a été retrouvé nu sur un arbre au-dessus d'une zone infestée de crocodiles. Il avait survécu comme cela pendant plusieurs jours en mangeant des escargots. Ce sont deux hommes qui pêchaient à proximité qui ont entendu ses cris. Ils lui ont offert un short et une bière. Et une fois à l'hôpital, il a été arrêté puisqu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire. Et bon, vraiment pas de chance, monsieur.
Content d'avoir porté cette information à notre connaissance.
Il y en aura d'autres demain, je vous promets.